Bonjour à tous et bonjour à Gaëtan Casanova. Vous êtes président du syndicat national des internes. Vous avez été interne vous-même en anesthésie réanimation, la PHP, à Paris. Et vous êtes donc à la fois très concerné par les nouvelles mesures sanitaires communiquées avant-hier par le gouvernement et très bien parlé pour remplacer. Parmi les mesures annoncées par Jean Castex, le Premier ministre, on va préciser qu'il a été surtout indiqué qu'on allait conserver, que pour conserver son passe sanitaire, futur passe vaccinal à compter du 15 janvier, le délai minimal entre la dernière injection et la dose de rappel était désormais réduit à 3 mois depuis hier. Les règles d'isolement pour les personnes infectées ou cas contact vont être également revues d'ici la fin de la semaine. Le télétravail est rendu obligatoire 3 jours par semaine pour tous les salariés qui le peuvent. En revanche, pas de couvre-feu pour l'instant et la rentrée scolaire est bien maintenue le 3 janvier. Voilà pour l'essentiel des annonces et mesures. Stratégie vaccinale renforcée donc. Gaëtan Casanova, je vais vous demander ce que vous pensez de tout ça. Mais auparavant, je voudrais faire un point sur la situation, une situation que vous connaissez de l'intérieur, si je puis dire. Tout d'abord, que sait-on aujourd'hui de cette maladie et de son mode de transmission? A-t-on maintenant quelques certitudes sur la question, ce qui a priori devrait permettre de mieux la combattre?
Bonjour Eric, eh bien évidemment c'est un plaisir de se retrouver ce matin. Alors maintenant on connaît même très bien le mode de transmission et le fonctionnement de cette maladie. Le coronavirus qu'on connaît aujourd'hui, c'est un virus parmi une grande famille qu'on connaissait déjà plutôt bien. Il y a des différences, mais globalement, qu'est-ce qu'on sait? Ce qu'on sait, c'est que la transmission, elle se fait par voie aérienne, et c'est ce qui nécessite l'utilisation de masques chirurgicaux, qui sont les masques en tissu classique qu'on porte tous, qui permet d'éviter de contaminer les personnes face à soi. Et puis d'autres masques, qui sont les FFP2, on les appelle canards, parce que c'est une espèce de bec de canard qui sont beaucoup plus rigides, et qu'on utilise pour les personnes à risque, parce que cela, ils nous protègent nous-mêmes. Donc voilà pourquoi ça fait maintenant 2 ans qu'on utilise des masques. Deuxième élément, ça se porte dans l'air, mais évidemment, ça se dépose sur les surfaces. Et puisque ça se dépose sur les surfaces, ça nous a obligés, et ça nous oblige toujours, à utiliser des gestes barrières qui sont le fait de se laver les mains, le fait de nettoyer parfois les surfaces, surtout si on sait qu'il y a des personnes à risque. Et puis un autre élément qu'on oublie parfois un tout petit peu, c'est l'aération. En gros, c'est 3 fois par jour, 10 minutes. Oui, c'est dans l'air et donc inévitablement, ce qui est très important, c'est d'aérer. Et d'ailleurs, il y a un petit outil qui est de plus en plus utilisé. On en a tous entendu parler, vous savez, c'est les détecteurs de CO2. Oui. Ça montre à peu près, c'est un indicateur de qualité de l'air. Et lorsqu'il est trop élevé, ça veut dire qu'on est dans une atmosphère un peu confinée, si je puis dire, si je puis utiliser ce mot. Et ça veut dire il faut aérer absolument. Alors, quand on n'en a pas, et ben ce qu'on fait, c'est que 3 fois par jour, on aère. Et ça permet de limiter la concentration virale si jamais il pouvait y en avoir. Voilà ce qu'on sait de ce virus-là aujourd'hui, de sa transmission.
Alors, la situation aujourd'hui, donc les contaminations flambent, on en entend parler tous les jours, 180 000 annoncés hier, le variant Omicron qui semble petit à petit prendre le dessus sur le variant Delta, le variant précédent, serait plus contagieux, semble-t-il moins dangereux, mais quelle est la situation réelle des contaminations? Parce qu'on sait que cette flambée est aussi quand même beaucoup due au fait que les gens se testent nettement plus qu'avant. Est-ce que le taux d'incidence, c'est le bon indicateur pour en juger? Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre qui serait plus pertinent?
Eh bien, le taux d'incidence, il dit quoi? Il donne le nombre de cas pour 100 000 personnes. Si vous faites tester beaucoup plus, le taux d'incidence, mécaniquement, il va augmenter. Donc seul, il n'est pas suffisant. Il y en a un second, c'est le taux de positivité des tests qui est important à voir en même temps. Le taux de positivité, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez 100 tests que vous réalisez chez des personnes qui viennent se faire tester et vous regardez le nombre de tests qui sont positifs. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de se départir un peu du nombre de personnes qui ont réalisé des tests. Donc voilà un nouvel indicateur qui est utilisé aussi et qu'il faut toujours regarder. Jamais les cas tout seul. Et puis un autre aussi qui est le plus fort, qui est le plus important, parce que lui, il montre la réalité. C'est plus un chiffre, c'est une vérité qu'on vit dans les hôpitaux, qu'on vit autour de nous, mais c'est celui du nombre de personnes hospitalisées en réanimation, surtout, pour une infection à Covid-19. Ça, c'est un vrai critère fort, dur, qui montre l'intensité et la violence de l'infection et de l'épidémie. Et puis un dernier aussi qui est très important, évidemment, c'est celui de la saturation hospitalière. Saturation, ben, c'est le nombre de lits qui sont pris sur l'ensemble des lits disponibles. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que avoir des lits disponibles, c'est permettre de prendre en charge des patients Covid, oui, mais tous les autres patients qu'il ne faut pas oublier, qui n'ont pas le Covid, évidemment. Et puis ça permet également aussi de ne pas trier les patients, ce qu'on s'est toujours refusé de faire.
Est-ce qu'on en est à ce point aujourd'hui? Est-ce qu'on commence à déprogrammer des opérations prévues ou des traitements prévus pour certains malades parce que les lits de réanimation deviennent de plus en plus rares et sont saturés par les cas Covid?
Malheureusement, oui, Eric, parce que lorsqu'on est en plan blanc, ce qu'on appelle en plan blanc, qui sont des mesures exceptionnelles face à une urgence sanitaire, eh bien, il y a des déprogrammations. Alors, elles sont différentes suivant les lieux. Il y a des zones beaucoup plus touchées. En Occitanie, on est plus épargné. Plus épargné, tout ça est très relatif. Mais enfin, il y a des zones beaucoup plus difficiles. En Île-de-France, toute la région du Rhône-Alpes, la région PACA, là, c'est extrêmement difficile. Mais globalement, on estime à autour de 20 à 30% de déprogrammation, même plus, dans certaines zones et dans certains hôpitaux. Et donc, oui, évidemment, il ne faut pas le nier. Ça a des conséquences sur les patients, qui voient leurs soins prévus, non Covid, non urgents, mais extrêmement importants, déprogrammés. Et ça a des conséquences importantes sur la santé des gens. Et donc, c'est évidemment très inquiétant. Il faut pas l'oublier.
La stratégie du gouvernement semble reposer, comme je l'indiquais tout à l'heure, sur le tout vaccinal, c'est-à-dire à amener, presque à forcer les réfractaires à se vacciner. Est-ce que c'est la bonne selon vous? Est-ce qu'elle est cohérente et adaptée à la situation et aussi peut-être à ce que peuvent accepter les gens, la population?
Alors, la stratégie vaccinale, elle est importante, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui est certain, ça c'est absolument essentiel de le rappeler à tous. Si on était dans un monde idéal où 100% de la population serait vaccinée ou immunisée, ça ne veut pas dire que le virus serait éradiqué, pour deux raisons très simples que j'évoque. Un, le fait qu'on vit dans un monde globalisé et que on peut faire ce qu'on veut, il y aura toujours des déplacements de population, même que ce soit pour le commerce. Et ces déplacements font que partout sur le globe, il y a des populations moins vaccinées, moins immunisées, des nouveaux variants qui apparaissent. Et donc, inévitablement, on ne peut pas imaginer que la vaccination permettra d'éradiquer le virus. Par contre, la vaccination, elle permet de diminuer les formes graves. Et c'est bien le plus important. C'est le plus important parce que ça évite les décès et c'est bien important parce que ça évite la saturation des hôpitaux. Donc c'est nécessaire. Ça a sauvé, on estime aujourd'hui en Europe, à 500 000 vies sauvées grâce à la vaccination. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut pas laisser croire qu'il n'y a que cette stratégie qui pourra marcher. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a la recherche sur les traitements qui, elle, doit, et on espère, va nous permettre de sortir de cette situation, des autres traitements, évidemment, de sortir de cette situation-là. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a toujours le maintien des gestes barrières en attendant d'avoir une solution pérenne, efficace, qui nous permette de soigner tout le monde avec la meilleure qualité de soins et sans danger.
Un chiffre qui circule aussi, je vais vous demander de nous le confirmer, parmi les gens qui aujourd'hui sont en réanimation, ce sont bien 90% de non-vaccinés, comme on l'entend un peu partout.
Alors, difficile de dire 90% comme ça, ce serait, je crois, mentir. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a beaucoup. En réalité, il y en a probablement plus de 80%. Difficile de sortir les chiffres avec très grande précision, mais des recherches, des retours que j'en ai, des chiffres que j'ai pu trouver, puisqu'il y en a quelques dans un certain nombre d'hôpitaux. Oui, ce qui est certain, c'est qu'on a une surreprésentation extrêmement majoritaire des non-vaccinés qui représentent 20% de la population. On est quasiment à 80% là de vaccination. On les a peut-être même dépassés dans les jours derniers. Donc oui, et ça je crois que c'est extrêmement grave parce que ça veut dire, même si je peux comprendre les craintes, que 20% de la population font porter à tout le reste cette charge hospitalière et que derrière, encore une fois, il y a des personnes qui ont leurs soins qui sont reportés, décalés, annulés. Et ça a des conséquences graves. Donc se faire vacciner, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. Et ça, c'est extrêmement important, surtout en cette période de Noël, où je crois le don de soi, et le souci des autres devraient être, à l'ordre du jour.
Le maintien des écoles ouvertes, alors évidemment on peut le comprendre, hein, pour la scolarité des enfants, pour leur socialisation, pour les interactions sociales qui leur sont nécessaires, est-ce que c'est cohérent cependant d'un point de vue sanitaire? Là, je demande évidemment l'avis du médecin.
Alors, la question des écoles, elle est évidemment difficile. Il y a des recommandations qui ne sont pas toutes concordantes, notamment les pédiatres et puis d'autres sociétés savantes. Alors, ce qui est certain, c'est que sur le plan sanitaire, pour répondre simplement à la question, sur le plan sanitaire, ça fait courir un risque. Personne ne peut contester aujourd'hui que les enfants sont à la fois contaminants et peuvent être infectés. Et la preuve de cela, c'est qu'on a ouvert la vaccination aux mineurs. Donc, on sait qu'ils peuvent transmettre. Maintenant, il y a un choix politique qui est fait et il faut l'énoncer clairement, c'est celui de dire on prend un risque supplémentaire en ne fermant pas les écoles. En même temps, il y a d'autres arguments qui sont importants, c'est de dire que un enfant, surtout lorsqu'il est très jeune, eh bien, il a besoin d'avoir des interactions sociales, il a besoin d'aller à l'école, ça fait partie vraiment d'éléments essentiels, vitaux à son développement. Donc, est-ce qu'il y a une bonne solution? Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, ce serait mentir. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on choisit un cap, il faut l'indiquer. Et la deuxième chose, surtout, c'est qu'il faut expliquer pourquoi on l'a choisi, l'assumer et être cohérent. Là, le problème, c'est qu'on a fait un choix, mais on n'en a pas expliqué les tenants et les aboutissants, et ça crée de la confusion, et c'est bien le problème.
À quoi pourrait ressembler la suite dans les prochaines semaines concernant les contaminations? On a évoqué des épidémiologistes, on a évoqué un pic d'ici la fin de l'année. Vous y croyez, vous?
Alors, oui, malheureusement, la tendance, quel que soit le nombre de tests, elle est quand même à l'aggravation partout en France, dans des zones en particulier. Il y a un autre problème qui est indissociable, évidemment, c'est celui de la pénurie de soignants. Les soignants, ça fait 2 ans qu'ils se démènent à l'hôpital public et ailleurs pour prendre en charge les patients victimes de l'épidémie. Ils sont épuisés, il y a beaucoup de démissions, on manque de personnels médicaux, on manque de personnels paramédicaux, et c'est ça le cocktail explosif. Il ne faut pas être catastrophiste. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit tous faire extrêmement attention, à cause du variant Omicron, évidemment, mais aussi parce qu'on sait qu'on a en face de nous des personnels de santé qui sont de moins en moins nombreux, de plus en plus fatigués, et des places dans les hôpitaux qui ne se sont pas étendues. Donc oui, l'épidémie va s'accroître là pour l'instant, le nombre de cas va augmenter, le nombre d'hospitalisations, de réanimations et de décès vont augmenter. Maintenant à nous de tous participer pour essayer de limiter cela. Quand ça arrivera, je ne le sais pas. Ce qui est certain, c'est que si on s'y met tous ensemble, qu'on essaie de limiter par les gestes barrières, par la vaccination, eh bien on arrivera le plus tôt possible à une inversion de la courbe, et c'est bien ce qui est important. La date, au fond, ça nous importe peu. Ce qui est important, c'est l'action, c'est de s'y mettre ensemble pour améliorer la santé de tous.
Est-ce qu'on peut avoir l'espoir, comme vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, qu'un vaccin durablement efficace, comme pour la grippe saisonnière, ou un traitement soit mis au point assez rapidement pour soigner cette maladie? On a parlé de la pilule Pfizer il y a peu. Il y a des choses qui sont en cours qui pourraient aboutir assez rapidement, selon vous, ou ça va prendre du temps de toute façon?
Alors oui, ça prendra du temps assez rapidement. C'est probablement pas le cas parce que même si on a été très rapide, notamment dans l'élaboration du vaccin, mais c'était des techniques, la technique de l'ARN messager qu'on connaissait déjà bien sur le plan théorique et qui avait déjà été utilisée dans d'autres cas. Eh bien là, on parle vraiment de traitement vraiment nouveau, qui demande des études à grande échelle, et ça, c'est une question d'années, hein, c'est pas une question de mois, c'est probablement une question d'années. Donc il va falloir prendre notre mal en patience. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on sait que entre guillemets, on n'est pas sorti de l'auberge. On va vivre assez difficilement avec cette épidémie, comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, à nous de trouver ce bon curseur qui nous permette à la fois de nous protéger, de protéger les autres, et puis de garder notre vie sociale, de pouvoir rester avec les gens qu'on aime, de pouvoir passer du temps ensemble, et ça, c'est bien l'essentiel. Voilà, donc oui, c'est une période difficile et ça va être encore difficile un peu de temps, malheureusement.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Gaëtan Casanova. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon réveillon en famille, puisque vous êtes en région toulousaine ces temps-ci. Faisons tous attention à nos proches. Le 31 décembre, il faut vraiment veiller à respecter les gestes barrières plus que jamais ce soir-là.